Carnet noir.
Le long d'un quai, en une matinée hivernale, deux silhouettes se dessinent au milieu de la gare de Rouen. L'une d'elles est une jeune fille qui couvre sa tête d'un bonnet en laine noire. D'un geste rapide de la main, elle replace une mèche brune derrière son oreille. Derrière la buée de ses lunettes, elle peine à distinguer ce qui l'entoure. À peine a-t-elle le temps de nettoyer ses verres qu'elles sont une présence juste derrière elle. Les battements de son cœur s'accélèrent, tandis que des frissons commencent à la parcourir. Une voix rauque l'interpelle. Mila se retourne et découvre un homme d'une cinquantaine d'années qui semble la regarder, les yeux dans le vide. D'immenses cernes creusent son visage, laissant deviner une tendance à l'insomnie. Mila y voit un mélange diffus de solitude, de désespoir et de tristesse. C'est alors que l'homme prononce ces paroles glaçantes.
« Je m'en vais. »
Elle ne sait quoi répondre. Troublée, elle ne comprend pas la signification de ces mots provenant d'un homme qu'elle ne connaît pas. Pourquoi lui dit-il cela à elle, une parfaite inconnue rencontrée dans une gare? Ces questions sans réponse se bousculent dans sa tête, lui donnant mal au crâne. Mila ne parvient pas à déceler le mystère que cache cet homme. Plongée dans ses pensées, elle ne remarque pas qu'il s'approche dangereusement du bord du quai. Le sifflement du train qui entre en gare la ramène soudain au présent. Elle regarde autour d'elle. Mais l'homme a disparu. Il était pourtant là, debout devant elle, il y avait à peine un instant. Et soudain, au milieu du flot de passagers descendant du train, elle croit comprendre. Il était si près du bord. Choquée, elle reste là, les bras ballants, à regarder le train refermer ses portes sans vraiment réaliser ce à quoi elle vient d'assister. Mais brusquement, la réalité la rattrape. Elle n'a pas réussi à empêcher cet homme de sauter la vie. Les larmes lui montent aux yeux et une douleur intense transperce sa poitrine de plein fouet. Sous le choc, elle recule, se heurte violemment à un banc et s'y assoit en tremblant. Elle serre ses genoux contre sa poitrine pour se calmer et remarque un objet posé près d'elle. Un petit carnet dont dépasse une photographie. Celle d'une femme assise aux côtés de ses chiens sur les marches d'un imposant manoir. Curieuse, Mila ouvre le carnet. Certaines des pages sont raturées, arrachées, d'autres couvertes de cartes, de vernis. Sur les dernières pages, des dessins d'une tristesse sans nom, des visages sans sourire, des paysages vides. C'en est si troublant qu'elle s'empresse de refermer le carnet. Puis elle porte attention à son environnement. Les passagers sont partis. Il n'y a plus personne sur le quai, à part elle et ce banc. Elle est donc l'unique témoin. Paniquée, elle s'enfuit. Loin de ce drame qu'elle ne pourra jamais oublier. L'adrénaline la pousse à une cadence folle, jusqu'à ce que le souffle du vent vienne à lui manquer, l'obligeant à s'arrêter. Après un moment, elle s'apprête à repartir, lorsqu'elle aperçoit sur sa droite une forêt de frênes. Elle y pénètre, attirée par le calme qui semble émaner de ce lieu. Pourtant, tout à coup, un bruit retentit. Son esprit se met à divaguer et à imaginer des scénarios les plus délirants, les uns que les autres. Un corbeau prend son envol. Elle sursaute. Ce n'est qu'un oiseau.
Deux mois plus tard.
Le banc de la gare n'a pas bougé. Mila le fixe. Se demande pourquoi lui n'a pas changé. Avec la même peinture écaillée, les mêmes graffitis, les mêmes gravures. C'est injuste, car le banc est le même, alors qu'elle n'est plus ce qu'elle était. Elle a peur désormais, et suffoque, étouffée par le poids de la culpabilité. Cet homme, elle aurait sûrement pu le sauver, au moins essayer. Elle revoit les images de l'accident, pellicule qui tourne en boucle dans sa rétine. Elle réfléchit, se disant qu'elle aussi aurait aimé être la même qu'auparavant. La fille sans cauchemar, sans crise de panique. La fille dont les mains ne tremblent pas. Désormais, elle se sent faible et déteste ça. Peut-être que cela lui ferait du bien de s'asseoir sur ce banc, un peu à l'écart des voyageurs qui passent devant elle, sans la voir. Ce serait apaisant, elle se sentirait moins seule, moins fautive. Mais le banc est un repère trop fragile, qui ne pourra pas durer éternellement. Elle regarde le quai d'en face, un train va bientôt arriver. Si elle décidait de se jeter sous les rails, à son tour, sans doute personne n'aurait le temps de réagir. Elle pourrait aussi monter dans ce train, fuir pourrait être la solution, après tout. Elle glisse la main dans la poche de son manteau et ses doigts se referment sur la tranche en cuir du carreau. Le train entre en gare. Elle semble hésiter un instant, puis il monte. Sa décision est prise.
Pendant ce temps, à Évreux.
Diane est assise sur un banc devant le musée, un sandwich à la main. Cette semaine, elle a prévu de visiter l'exposition temporaire sur Pierre Soulages, dont elle doit faire un compte-rendu pour son cours aux Beaux-Arts. Ses pensées naviguent par avance dans les outres noires de l'artiste lorsqu'un énorme chien lui saute dessus, la tirant de sa rêverie. Surprise, elle se lève d'un coup et se retourne. Celle qui semble être la propriétaire du chien, une dame tirée à quatre épingles, s'approche vivement, s'empressant de le rappeler à l'ordre, tout en retenant un homme qui s'est mis à aboyer à son tour.
Blob, au pied! Qu'est-ce qui te prend? Lix, du calme! Oh, je suis vraiment désolée, je ne sais pas pourquoi ils vous attaquent, ils sont si doux d'habitude. Mais ils sont si excités de m'avoir retrouvée, et je crois que votre sandwich leur a donné faim.
Répond Diane un peu désappointée.
En tout cas, ils sont impressionnants.
Oui, ce sont des dogs allemands. Je rentre juste de vacances dans le sud et je viens de les récupérer chez des amis où mon mari les avait déposés avant de m'y rejoindre. Enfin, c'est ce que je croyais, car il n'est jamais venu. Il nous a quittés sans explication. Maintenant, je vais devoir m'en occuper seule. Bien sûr, ils prendront aussi soin de moi, mais je suis vraiment désolée, je vous parle de moi et j'oublie qu'ils vous ont causé un sacré choc. Laissez-moi vous offrir un thé pour me faire pardonner. Je m'appelle Hélène, d'ailleurs.
Un peu intriguée, Diane accepte. La visite sera pour une autre fois.
Le soleil décline doucement dans le ciel et les deux femmes qui ont sympathisé autour d'une tasse de thé et se sont découvert des points communs, dont le fait d'habiter la même ville, décident de reprendre le train pour entrer à Rouen. À la descente du train, elle s'apprête à se quitter quand elle croise le regard d'une jeune fille, recroquevillée sur un banc, un livre entre les mains et un casque sur les oreilles. Son visage pâle et ses mains frêles contrastent avec sa sombre chevelure. Toutes deux noires vêtues, elle se confond avec l'ombre. Cependant, un détail attire l'attention d'Hélène, qui blêmit et s'exclame.
« Ce carnet, où l'avez-vous trouvé ? »
crie-t-elle presque pour que la jeune fille l'entende. Interloquée, Mila a un brusque mouvement de recul. Elle ôte son casque et dévisage les deux femmes. Prise d'une panique soudaine, elle se replie sur elle-même, tremblant de tout son corps. Le carnet tombe au sol. Diane le ramasse et tente un geste tendre envers elle, mais Hélène arrête son bras lorsque Mila commence à gémir.
« Mais qu'est-ce qui lui prend ? » demande Diane.
Elle fait une crise d'angoisse, on dirait.
Diane lui murmure de se calmer, ce qui n'a d'autre effet que d'accentuer la crise de la jeune fille qui se renferme encore plus sur elle-même. Diane sort instinctivement son téléphone et veut appeler le SAMU, mais Mila lui attrape le bras pour l'en empêcher. Les deux femmes s'interrogent du regard. D'un accord tacite, elle la relève de force et décide de la sortir de cet endroit.
« Allons chez moi, j'habite à deux pas »,
propose Hélène. Au manoir, les deux femmes décident d'allonger Mila sur le canapé où elle pourra reprendre ses esprits. À garde, la jeune fille regarde autour d'elle, sa tête continuant inlassablement de tourner. Malgré tout, elle se sent un peu rassurée et commence à se décrisper. Mais tout à coup, sa peur revient lorsqu'elle revoit, posée sur la table en face d'elle, le carnet à dessin. Les souvenirs refluent par vagues violentes et dangereuses. L'homme sautant soudainement sur les rails à l'arrivée du train. La découverte du carnet, la réaction étrange de cette femme élégante quelques minutes plus tôt. Des questions restent en suspens. Qui était cet homme? Avait-il une famille? Une femme? Cette femme peut-être? Car le visage de la maîtresse de maison lui semble familier maintenant. Les deux chiens et le manoir aussi d'ailleurs. La photo lui revient alors en mémoire. Elle la sort du carnet pour en être sûre. À sa vie, elle a une racine.
Cette photo, ce carnet, comment l'avez-vous trouvé? Il est à mon mari.
Mila est perdue. Cette dame est bien sa femme, mais elle parle de lui au présent. Elle ne sait donc pas qu'il est mort. Elle doit lui expliquer ce qui s'est passé. Mais pourquoi la croirait-elle? Elle, une fugueuse à moitié folle qui annonce de si funestes nouvelles. Pourtant, elle doit parler. Alors elle déballe tout, comme ça, sans préambule. Elle raconte la gare, l'homme, le train, le vide, le carré. Ça s'est passé comme ça. C'est sûrement un peu sa faute, mais pas trop parce que cet homme, elle ne le connaissait pas. En même temps, elle s'est toujours sentie coupable. Parfois, la raison et les sentiments ne réussissent pas à s'accorder. Et puis une fois c'est terminé, elle relève la tête, le visage baigné de larmes, de tristesse bien sûr, mais surtout de soulagement. Elle a réussi à parler. À présent, il faut partir. Elle a déjà donné, et le peu qui lui reste, elle doit le garder pour elle, pour pouvoir avancer. Elle ne prend pas la peine de jeter un regard aux deux autres femmes présentes dans la pièce. Elle n'a plus rien à dire, et elle doit reprendre sa route. Elle ne récupère pas le carnet, elle part juste, laissant la porte ouverte, et elle est là.
Les murs Hélène, les yeux dans le vague.
Moi qui pensais qu'il m'avait quitté. On s'était disputé la veille de mon départ. Il avait beaucoup changé ces derniers temps. Il semblait toujours absent.
Diane, un peu dépassée par les événements, ne sait quoi faire. Elle reste là, interdite. Elle ne sait comment réconforter cette quasi-inconnue qui vient d'apprendre la mort de son mari. D'un geste là, Hélène lui fait comprendre qu'elle a besoin de solitude. Mais Diane ne peut se résoudre à s'enfuir de la sorte et lui donne rendez-vous une semaine plus tard pour prendre un thé. Avec ses chiens, évidemment. Ne reste qu'Hélène. Hélène, seule dans son grand manoir avec ses chiens, avec ses souvenirs. Elle est toujours à la même place lorsque la nuit tombe. Le carnet de son défunt mari serré contre elle. Et les larmes ne tarissent pas.
Dans celle d'Anaël, de Chiara, de Fanny, d'Ilan, de Johanna, de Juliette, de Liam, de Maïna Roman, de Marilou, de Marine, de Oran, de Phileas, de Philomène, de Robin M, de Robin V, et de Salomé, tout ça sous la supervision donc, de Sophie Drillat et de Thomas Bronek.